On poursuit la série sur la croix ce matin et c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir participer à cette série et je crois personnellement que le message de la croix c'est un message qu'on ne doit pas se lasser d'entendre car c'est l'essence même de la foi chrétienne. Est-ce que vous le croyez aussi? Lorsque nous prenons le temps de considérer l'extraordinaire œuvre de Jésus à la croix, cela ne peut que nous amener à la reconnaissance et à l'adoration. Et si nous ne comprenons pas le message de la croix, il nous sera difficile de saisir saisir entièrement notre identité chrétienne. Et quand nous disons que nous aimons Jésus, nous aimons Dieu, est-ce que c'est seulement au bout des lèvres que nous le disons ou bien c'est une conviction profonde qui vient de nos cœurs? En introduction à cette série, Pasteur Jean-Frédéric nous a expliqué le fil d'accusation qui a amené Jésus à la croix. Et par la suite, Pasteur Francis nous a aidé à saisir le vrai sens du renoncer à soi et de porter sa croix lorsqu'on veut suivre Jésus. Et pour ma part, ce matin, je veux nous amener à trouver des raisons de se réjouir de la croix. J'ai donné ainsi comme titre à mon message « La croix, un sujet de fierté ». Pouvons-nous être réellement fiers de la croix? Et avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler que Jésus n'a pas été contraint d'aller à la croix. Il n'a pas été pris au dépourvu. Ce n'était pas du tout la conséquence d'un désaveu de Dieu à son égard, ni une surprise pour lui. Il savait très bien dans le commencement que sa destinée était de boire cette coupe amère jusqu'à la dernière goutte. Et il a fait pour la plus noble des causes, celle de donner sa vie pour le salut de l'humanité. On l'a chanté tantôt. Et lisons ce matin ce qu'il dit lui-même à ce sujet un jour lorsqu'il était avec ses disciples. On va lire dans Marc 10, versets 32 à 34. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. On peut dire que Jésus a prophétisé lui-même sa mort. Le sachant à l'avance, il n'a point reculé en cherchant d'autres moyens moins douloureux, moins humiliants pour faire la volonté parfaite de son Père. Je veux ce matin vous proposer de revisiter quelques passages dans le Nouveau Testament et voir si nous avons réellement une quelconque fierté à tirer de la mort de Jésus à la croix. Regardons ensemble ce matin dans l'évangile de Matthieu un récit qui a précédé la crucifixion de Jésus à la croix. Et c'est Pilate qui, comme il était de coutume à cette époque-là, à chaque fête, lors de l'arrestation de Jésus, il va demander à la foule de savoir entre Jésus et un prisonnier du nom de Barabbas, lequel des deux devrait-il leur relâcher. Et comme vous le savez tous, le choix de la foule s'est porté sur le brigand Barabbas. On va le lire dans Matthieu 27, 26 à 29. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» On poursuit dans le verset 30 à 31, après 39 à 40. Au verset 30, il dit ceci. « Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Et je peux entendre Jésus dans sa tête qui dit, « Je ne descendrai pas de cette croix. J'irai jusqu'au bout. » Est-ce que vous entendez la même chose? Avez-vous remarqué ici que l'accomplissement de ce que Jésus avait dit lui-même à ses disciples dans le passage de Marc au chapitre 10 qu'on a lu tantôt? C'était dit qu'ils se sont moqués de lui. Ils ont craché sur lui et ils l'ont fouetté. Peut-être que vous êtes comme moi et jusque-là, vous ne trouvez aucune raison de tirer une fierté de la mort de Jésus, de quelqu'un qui n'a commis aucune faute, mais qui a été traité comme un vulgaire criminel, un bandit. Il a été humilié à l'extrême. On parle ici de la mort par crucifixion. Qu'en est-il au juste de la crucifixion? En regardant ça de plus près, peut-être que nous allons réussir à trouver une quelconque raison de tirer une fierté de la croix. Allons-y. En quoi consistait réellement la crucifixion? J'ai fait quelques petites recherches et il faut comprendre que la crucifixion était un supplice que les Romains réservaient aux rebelles juifs, aux esclaves en fuite, aux criminels les plus endurcis, aux ennemis de l'Empire romain. Ils étaient exécutés publiquement dans le but de décourager toute rébellion, toute sédition et tout autre crime grave. Et selon le judaïsme, c'était une mort déshonorante. Et comme Pasteur Francis nous l'a dit dimanche dernier, on pouvait la comparer de nos jours à la peine capitale par électrocution, c'est-à-dire une exécution sur une chaise électrique. La crucifixion n'était pas une invention romaine, mais elle a été raffinée par les Romains. Elle est devenue le plus cruel et le plus atroce des moyens d'exécution jamais imaginés auparavant. C'était le summum de l'atrocité réservée à un malfaiteur. On dit que ça a été réservé à Jésus. Hein? L'agonie du crucifié pouvait durer plusieurs jours et parfois, pour hâter la mort des condamnés, on leur brisait les jambes comme on le fit aux deux brigands qui étaient crucifiés aux côtés de Jésus. Et les crucifiés mouraient par d'asphyxie ou d'hydratation, de déshydratation, ou même parfois de faim. Et en général, après avoir reçu des coups de fouet, on demandait aux condamnés de porter sur ses épaules la partie horizontale de la croix sur plusieurs kilomètres jusqu'au lieu de la crucifixion. Et selon les historiens, cette partie pouvait peser entre 37 et 75 kilos, 80 et 165 livres. Et il n'était pas question que le condamné meure en chemin. Il fallait absolument qu'il atteigne le lieu de la crucifixion, bien épuisé et tout en entier, pour pouvoir aller à la croix après. Et c'est pour cela que dans le cas de Jésus, les soldats romains avaient réquisitionné sur le chemin un certain Simon de Cyrène pour l'aider à porter la croix. Les soldats romains ne l'avaient pas fait par compassion ou par une certaine gentillesse. Non. Ils voulaient tout simplement éviter que Jésus meure sur le chemin. Ils voulaient qu'il aille réellement à la croix, à Golgotha, pour souffrir, pour qu'il puisse l'humilier encore davantage. Et contrairement aux représentations artistiques qu'on a l'habitude de voir dans les films, ou même sur des tableaux, les crucifiés étaient nus. Les clous étaient enfoncés dans les poignets ou dans les paumes des mains, et les clous qui devaient maintenir les mains étaient enfoncés au travers des chevilles. Je m'excuse de la violence décrite ici, mais je crois que cela est nécessaire pour nous pour comprendre juste un peu ce que Jésus a enduré à la croix. Ça nous évite de banaliser ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Et j'ai prié pour vous. Vous ne ferez pas de cauchemar. Ça va bien aller. Je peux continuer ? Jusque-là, est-ce que vous avez trouvé une certaine fierté à tirer de la croix de Jésus? Non, hein? Et pourtant, ce symbole du plus horrible moyen d'exécution est devenu pour les chrétiens le plus cher des emblèmes de la vie parce que Christ a souffert et est mort sur la croix pour accomplir le sacrifice suprême qui les a sauvés du péché et de la mort. Je n'ai jamais vu personne porter un pendentif de chaise électrique au cou, mais une chaîne avec une croix ou même un autocollant sur une voiture, j'en vois. Vous en voyez également. Et j'espère que ceux qui le font avec une certaine fierté. Et si nous devons le faire, nous ne devons garder qu'une seule raison. C'est en souvenir du sacrifice de Jésus à la croix pour chacun de nous. Nos fautes et nos péchés qu'il a pris à notre place. C'est nous qui méritons cette crucifixion, mais il s'est substitué à notre place de son propre gré sans aucune résistance. Personne ne l'a obligé à le faire. Il est allé à la croix lui-même jusqu'au bout. Et Dieu, dans sa bonté, a fait de la plus horrible expression de la haine humaine la plus belle expression de son amour divin. Amen. Jean 3,16 va dire, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Il y a quelque chose de remarquable qu'on trouve dans la Bible avec l'apôtre Paul. Celui qui a signé 13 des 27 livres du Nouveau Testament et qui aurait pu avoir toutes les raisons du monde pour s'enorgueillir, pour se vanter de ses dons spirituels, de ses capacités intellectuelles. Mais il ne va pas le faire. Il va plutôt dire ceci dans la conclusion de sa lettre aux Galates. Il va dire ceci, Galates 6, versets 12 à 14. « Tous ceux qui veulent se faire bien voir par les hommes vous obligent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être eux-mêmes persécutés pour la croix de Christ. En effet, les circoncis eux-mêmes ne respectent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de pouvoir tirer fierté de votre corps. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Il poursuit au verset 15 et 16. « En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Amen. Et c'est avec raison que Paul s'indignait contre les enseignants de son époque qui imposaient la circoncision comme condition pour être accepté, pour être aimé, pour être réconcilié avec Dieu. Pour lui, ces gens, en plus d'être orgueilleux, sont aussi des lâches. Ils prônent le légalisme pour protéger leur vie et leur bien-être matériel, de même pour satisfaire leur ego. Ils ne sont pas prêts à payer le prix de la persécution qu'attire l'attachement à Christ, le renoncement à soi, porter sa propre croix pour suivre Jésus. Ces personnes étaient prêtes à prononcer le nom de Dieu, à se joindre à son Église, mais uniquement si cela n'offense pas les gens de leur milieu. Ils nient et banalisent ainsi l'importance de la mort de Jésus à la croix dans le seul but de rester politiquement correct aux yeux de la société de l'époque. La croix est assurément un sujet de joie et de fierté pour tous ceux et celles qui l'ont accepté comme l'aboutissement suprême de l'œuvre de rédemption de Christ pour nous. Amen. Regardons rapidement ce matin à trois bonnes raisons de tirer fierté de la croix de Jésus. J'en ai retenu juste trois. Vous allez en trouver plusieurs raisons de tirer fierté de la croix de Jésus. Première raison ce matin, La prédication de la croix est la source du salut. L'évangéliste américain Billy Graham, décédé en 2018, va dire ceci. Jésus-Christ est mort sur une croix pour notre salut. Nous n'adorons pas cette croix. Nous adorons le Christ vivant. Cependant, parmi tous les emblèmes du monde, la croix est admirée avec respect et émerveillement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La croix partout dans le monde est admirée avec respect et émerveillement. Lorsque nous prêchons la croix, nous annonçons la bonne nouvelle du salut des âmes perdues. Nous ne prêchons ni un message de motivation, ni de développement personnel, mais nous prêchons la croix car il n'y a point de salut sans le sacrifice de Jésus à la croix pour nous. La vie éternelle que Dieu nous donne passe par le chemin de l'acceptation de la croix. Ce n'est ni par la circoncision, ni par nos bonnes œuvres comme certains le voudront, mais uniquement par la foi dans le sacrifice de Jésus à la croix. Sola fide, la foi seule, seule la foi en Jésus nous sauve de la perdition. Et pour nous offrir ce merveilleux salut, Jésus a accepté la souffrance, il a accepté la douleur, il a accepté l'humiliation jusqu'à aller à la mort, à la croix. Et c'est à la croix qu'il a payé le prix inestimable pour nous donner la vie et l'espérance aujourd'hui. Amen. Êtes-vous fiers de la croix? Amen. Paul va dire dans 1 Corinthiens 1, verset 24, « Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux. » Et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. Quand je pense à ma propre conversion, je reconnais réellement que la prédication de la croix est une puissance qui renverse les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Avant de donner ma vie à Christ, je me croyais sage et intelligent à mes propres yeux. Je croyais que j'étais suffisamment malin pour tromper Dieu et lui soutirer de temps en temps des bénédictions à chaque fois que j'en avais besoin. Peut-être qu'il y en a qui le sont comme moi aussi. Hein? Ou je suis seul? Ok, je suis seul. Mais sans pour autant m'engager réellement à vivre pour lui, en renonçant à moi-même et en portant ma croix. J'étais juste intéressé par les bénédictions de Dieu. J'étais comme un canard, toujours dans l'eau, mais jamais mouillé. Et les rares fois que j'étais mouillé, je me secouais rapidement pour redevenir sec comme je l'étais auparavant. Je ne voulais prendre aucun engagement avec Dieu. Mais il a fallu un jour que je sois percuté par un message sur la croix. Et ce jour-là, la prédication n'était pas restée seulement au niveau de ma tête, au niveau de mon intellect, mais elle est descendue au plus profond de mon cœur. Et ce jour-là, je n'ai pas pu résister à Dieu. Je n'ai pas pu résister à son appel. Et j'ai décidé de faire une ouverture à Dieu, de le laisser m'apprendre à dépendre de lui, à renoncer à moi-même et à laisser son Saint-Esprit faire son œuvre de conviction en moi. Je n'étais pas du tout préparé à vivre une telle expérience, mais Dieu, dans son amour, m'a surpris. Il m'a fait grâce, comme il l'a fait à chacun de vous, ici présent, qu'il avait reçu dans votre cœur et qui vous vous efforcez à vivre pour lui. Nous sommes tous en construction et je suis sûr que l'œuvre, cette belle œuvre que Jésus a commencée en nous, il l'amènera à la perfection. Et à lui seul, nous donnerons toute la louange et toute la gloire. Amen. Passons maintenant à une autre bonne raison d'être fier de la croix. La croix de Christ marque la fin de la loi et du péché. Éphésiens 2, 15. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Christ a, au travers de la croix, aboli dans sa chair la loi des commandements qui consiste en ordonnances, en règles. La croix a ainsi permis de nous dégager de la loi. Or, c'est par la loi que vient la connaissance du péché, comme dirait Paul. Mais par conséquent, la croix nous a aussi dégagés de la puissance du péché en nous rendant libres de toute chaîne et de tout lien qui cherche à nous retenir. Quelle bonne nouvelle! On est libre de toute chaîne, de tout lien. On a besoin que cela puisse pénétrer nos cœurs, qu'on puisse le croire réellement, qu'aucune chaîne ne nous tient. Nous sommes en lui et nous vivons pour lui. Paul va continuer. Et dans Colossiens 2, versets 13 à 14, il nous dira ceci. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu, il parle de Jésus, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le sacrifice de Jésus à la croix nous fait triompher du péché. Certes, nous sommes encore tentés. Nous le sommes encore, mais nous ne sommes plus esclaves du péché. Romains 6, 14 va dire, ce n'est pas dans mes notes, que désormais, le péché n'aura point de pouvoir sur nous, puisque nous sommes non plus sous la loi, mais sous la grâce. Jésus, à la croix, a ôté nos péchés en nous dégageant de la loi. Et toujours dans Romains 6, Paul va dire ceci, « Si Christ est mort à la croix, c'est pour le péché qu'il est mort. » Nous tous qui avons été baptisés, c'est-à-dire plongés, immergés en Jésus-Christ, nous l'avons été en sa mort. Nous sommes ainsi devenus une même plante avec Christ par la conformité à sa mort. Et étant devenus conformes à lui dans sa mort, nous sommes aussi morts pour le péché. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Christ a en effet porté nos péchés en son corps, afin que nous soyons désormais morts au péché et vivants pour lui. Nous devons nous regarder aujourd'hui comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et ça, c'est un privilège que Dieu nous fait. Nous sommes morts en Jésus et nous vivons en lui et pour lui, car c'est lui qui est mort. Car celui qui est mort est libre du péché. Si nous disons que nous sommes morts en Jésus, nous sommes libres du péché. Et je veux terminer avec cette dernière raison de tirer fierté de la croix de Jésus. La croix de Christ confirme la crucifixion du vieil homme. Galates 2, verset 20 à 21 va dire ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la foi, par la loi, alors Christ est mort pour rien. Si la justice s'obtient par la foi, par les bonnes œuvres, Christ est mort pour rien. Christ est mort pour rien. En d'autres termes, nous sommes regardés comme crucifiés et morts avec Christ. Nous sommes identifiés à lui. Notre identité, notre nouvelle identité se trouve dans l'œuvre accomplie de Jésus à la croix pour chacun de nous. La croix vient ainsi résoudre notre problème d'identité. Le vieil homme représente la partie de notre être qui se corrompt par ses convoitises, par ses désirs charnels, qui ont été vendus au péché. Et ce vieil homme n'obéit pas à Dieu et est sans cesse tourné vers le mal, ne pouvant pas faire ce qui est bien. Le vieil homme représente notre chair dans laquelle est condamné le péché. Et cette chair combat l'esprit qui représente l'homme nouveau créé selon Dieu. Galates 5, verset 7 va dire ceci. En effet, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Et c'est une lutte permanente. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ à la croix, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, esclaves de nos désirs charnels, esclaves de nos convoitises. Et ceux qui sont à Jésus ont crucifié également leur chair avec ses passions et ses désirs. Et ayant été ainsi crucifiés avec Christ, nous avons donc la capacité, le pouvoir de nous dépouiller du vieil homme. Et ceci n'est possible que par le renouvellement de notre esprit, afin de pouvoir revêtir l'homme nouveau qui ne se corrompt plus facilement. En d'autres termes, nous devons renoncer à nos propres convoitises en changeant notre mentalité et en prenant la décision de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Nous devons nous dépouiller nous-mêmes du vieil homme et de ses œuvres et nous revêtir volontairement de l'homme nouveau que Dieu, que Jésus nous donne par l'œuvre accomplie à la croix. Éphésiens 4, versets 17 à 19 dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme des non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. On poursuit avec le verset 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à notre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. À cause de la croix, nous ne pouvons plus livrer volontairement nos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais nous devons plutôt nous offrir à Dieu comme des instruments de justice. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous aimons jouer aux chrétiens zombies. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Un chrétien zombie, je l'ai été moi-même et je sais de quoi je parle. Vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans un peu. C'est un chrétien qui ne connaît pas encore clairement sa nouvelle identité en Christ. Il est à moitié mort et à moitié vivant, comme dans les films d'horreur. Un peu des choses de Dieu, un peu de péché, et dans tout ça, il essaie de trouver un certain équilibre. Il veut maintenir un certain équilibre, et qui est impossible à maintenir. Alors, ça le fatigue. Ça le fatigue énormément. Et il peine à s'épanouir pleinement dans la vie nouvelle que Christ lui a donnée. Cette vie nouvelle que Christ a acquise à la croix pour lui. Et être chrétien zombie, je ne le souhaite à personne d'entre vous. Amen. Et lorsqu'on est confronté à cela, il n'existe qu'un seul remède. Je l'ai utilisé, ça fonctionne. Il faut se rappeler constamment de l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. Nous devons sans cesse nous rappeler et rappeler à l'ennemi de nos âmes que nous avons été crucifiés à la croix avec Christ. Et si nous vivons aujourd'hui dans ce corps, ce n'est plus nous qui vivons, ce n'est plus notre ancien moi qui vit, mais c'est Christ qui vit en nous. Nous devons accueillir et honorer la présence du nouvel homme en nous, la présence de Christ en nous. Colossiens 1, verset 27 va dire, « Christ en nous, l'espérance de la gloire, il vit en nous, sa gloire est en nous, sa joie est en nous, sa paix, sa sainteté fait partie de notre vie. » Amen. Et lorsqu'on est fier de quelqu'un, vous m'aviez dit que vous êtes fier de la croix. Vous êtes fier de Jésus. Et d'habitude, quand on est fier de quelqu'un, quand on est fier de quelqu'un qui nous apporte un grand bien, qui nous apporte un secours, un grand secours, qu'est-ce qu'on fait? On l'honore, yes! Vous pouvez vous applaudir. On l'honore. On fait tout pour ne pas le décevoir. On veut rester ami avec lui. On veut rester près de lui. On veut s'approcher de lui. On veut lui ouvrir notre cœur. On veut avoir une intimité profonde avec lui. Et c'est la même chose avec Dieu. Faisons tout ce qui est de notre possible pour rester attachés à lui, attachés à sa grâce. Et il nous aidera à conserver cette fierté et à aller de progrès en progrès dans la connaissance que nous avons de qui il est réellement. Je vais inviter mes amis musiciens à me rejoindre. Et pendant que je préparais ce message, je suis tombé sur cette belle citation, cette belle déclaration de Billy Graham qui va dire ceci. Le péché est la deuxième force la plus puissante de l'univers car elle a envoyé Jésus à la croix. Une seule force est plus grande que toutes. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Quand ils ont crucifié Jésus, ils pensaient que c'était la fin. Mais Dieu avait une arme plus puissante. Une arme de destruction massive. Une bombe atomique spirituelle. L'amour. Son amour pour nous. Jean 3, 16, vous le connaissez tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. La croix est une sagesse et une puissance de Dieu pour laquelle Dieu a sauvé l'humanité. C'est une révélation que Dieu a accordée seulement à ceux qui lui appartiennent, car pour les autres, cela relève de la folie et constitue un scandale. Comment la croix peut nous sauver? Comment la mort de quelqu'un, la défaite de quelqu'un qui a été humilié, quelqu'un sur qui qu'on a craché, nous donne la victoire aujourd'hui? Une folie pour ceux qui n'ont pas cette révélation. Et nous, nous avons la grâce d'avoir cette révélation. Nous savons pour qui et par qui nous sommes sauvés. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, dira le prophète Ésaïe? Qui aurait cru que le Fils de Dieu serait fait péché et mourrait sur une croix comme un brigand ou comme un maudit? Et pourtant, c'est par cette folie que nous sommes sauvés et que nous avons la vie éternelle. Par la croix, nous sommes dégagés de la loi, morts au péché quant à la chair et vivants pour Dieu quant à l'esprit. Nous avons donc été affranchis de l'esclavage du péché afin de devenir serviteurs, esclaves de Dieu et de sa justice. Cependant, cette liberté ne doit pas être pour nous une occasion de continuer à demeurer dans le péché, en vivant selon la chair, loin de là. Au contraire, la grâce nous enseigne à reconnaître le sacrifice de Jésus à la croix, à renoncer à nous-mêmes, comme Pasteur Francis nous l'avait dit, et à marcher d'une manière digne de la croix de Jésus. À marcher dans la justice de Dieu en recevant son amour. Et étant donc sous la grâce, par la mort de Christ à la croix, nous devons nous dépouiller du vieil homme par le renouvellement de l'intelligence afin de revêtir Christ et de vivre pour lui. Il est mort pour nous et nous en sommes très fiers. Et maintenant, nous ne pouvons pas dire seulement que nous sommes fiers de la croix. Nous devons avoir à l'esprit que la croix est quelque chose de grand, qu'on ne doit pas banaliser, qu'on ne doit pas prendre à la légère, mais nous devons considérer toute la puissance, toute la grandeur, toute la miséricorde que Dieu a déployée au travers de la croix et se laisser transformer par son esprit. Nous devons accepter cette croix, non pas seulement au niveau intellectuel, mais laisser vraiment l'œuvre de la croix percuter notre cœur et nous amener à décider volontairement, comme Jésus lui-même aussi est allé à la croix, sans qu'on ne lui le force, à dire, Seigneur, face à ton œuvre accomplie à la croix, parce que tu t'es donné pour moi, moi en retour, je veux vivre pour toi, je veux te servir, je veux t'honorer, je suis encore tenté, j'ai encore de la difficulté, mais je veux m'appuyer sur ta grâce. Je veux compter sur ton amour. Parce que tu as dit que quiconque croit en Jésus ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Est-ce que vous soupirez à cette vie éternelle? Elle nous a été donnée. Elle nous a été donnée. La seule chose que nous pouvons faire pour la recevoir, c'est d'accepter la croix de Jésus dans nos vies. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui reconnaît l'œuvre de la croix dans sa vie? Qui veut dire merci à Jésus pour son amour, pour sa grâce, pour avoir pris à la croix nos péchés, nos souffrances, nos difficultés, toute la condamnation qui pesait sur nous, il a pris lui à la croix. On a craché sur lui. On l'a humilié, lui le Fils de Dieu. Il a été humilié à l'extrême. Pour qui? Pour moi? Pour vous? Il a fait juste pour nous. Et peut-être que vous êtes là ce matin, vous n'avez jamais reçu Christ dans votre cœur. Je vais vous inviter ce matin, alors que nous sommes dans un temps de recueillement, si vous ne l'avez jamais reçu, vous ne l'avez jamais accepté, juste vous inviter à lever la main là où vous êtes. Et je veux prendre le temps ce matin de prier pour vous, afin que vous puissiez goûter à cette grâce merveilleuse de Dieu, à la croix pour chacun de nous. Christ est mort pour nous. Et il veut que nous puissions vivre pour lui. Est-ce que ce matin l'Église peut juste se lever et juste dans ses propres mots, inclinons nos cœurs devant Dieu, devant cette croix, et disons-lui combien nous sommes fiers de ce qu'il a fait pour nous, et combien nous voulons l'honorer par nos vies, combien nous voulons marcher dans ses voies, combien nous voulons le glorifier. Merci Jésus, merci pour ton œuvre accomplie à la croix pour nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci de nous avoir réconciliés avec Dieu. Merci d'avoir ouvert le chemin qui nous amène vers le Père. Merci. Parce que c'est avec assurance que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce ce matin. Pas parce que nous avons été circoncis. Pas parce que nous avons fait de grandes œuvres de foi. Mais parce que nous avons reçu Christ dans notre cœur. Parce que nous avons accepté son œuvre, son sacrifice à la croix pour chacun de nous. Sois béni ce matin, Seigneur Jésus. Sois loué. Et donne-nous de ne pas banaliser cette œuvre que tu as accomplie à la croix. Donne-nous d'être fiers de toi, fiers de ton action dans nos vies, fiers de tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement pour ce qu'il fait pour nous ?